Le général de Gaulle a donc rétabli la République, établi le droit de vote des femmes, l'élection du président au suffrage universel, les nationalisations, la sécurité sociale, les allocations familiales, les comités d'entreprise, réussi une décolonisation qui a rendu à la France son visage historique, résolu le terrible problème algérien, apporté la paix en menant la seule vraie lutte contre la seule droite meurtrière, celle du putsch d'Alger et du petit Clamart. Pendant ce temps-là, vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez rêvé la gauche. Vous croyez que vous la faites quand vous parlez d'elle. Un ouvrier m'écrivait hier, dites bien que si moi je vote pour De Gaulle, c'est parce qu'avec lui on n'a pas les CRS sur le dos, tandis qu'avec Mitterrand on les avait tout le temps. Vous n'êtes pas le défenseur de la justice. Chaque fois qu'elle a été tragiquement en cause, vous n'avez pas existé. Vous n'êtes pas le défenseur des libertés individuelles qui ne sont nullement menacées, comme l'a dit le général de Gaulle dans l'écran tout à l'heure lui-même. Vous n'êtes certainement pas le défenseur de l'indépendance nationale. Puisque vous ne symbolisez en rien une véritable action de la gauche, puisque vous ne symbolisez pas la République, et puisque néanmoins vous symbolisez quelque chose, que symbolisez-vous ? D'abord, le mélange de désirs émouvants et d'inévitable démagogie qu'implique l'éternelle intention politique opposée à l'action politique. Il est plus facile d'accorder les électeurs sur le désir d'aller au ciel que de leur donner les moyens d'y aller. Vous croyez d'instinct que les écrasants obstacles de l'histoire ont une solution parlementaire. Vous dites, si je suis élu, je dissous l'Assemblée et je gouverne avec la majorité que dégageront les élections. Bien. Vous espérez que cette majorité sera formée de voix semblables à celles que vous venez de rassembler, supposons-le. Mais moins de la moitié de vos voix sont pour l'Europe intégrée, c'est-à-dire américaine, plus de la moitié communiste est contre. Il s'agit d'une question capitale, non d'un point de détail. Qui changera votre jeu parlementaire ? Couperez-vous la France en deux ou en quatre, car vous êtes le candidat unique de quatre gauches, dont l'extrême droite ? Depuis que je vous écoute à la télévision, je m'aperçois que tous les problèmes que le général de Gaulle a posés comme des problèmes de l'histoire, vous espérez les résoudre par des combinaisons, par des contrats loyaux. Il y a donc des contrats déloyaux avec tel ou tel parti. Mais la gauche de Jaurès, ça n'était pas une combinaison. Le choix auquel est appelé le pays, et qui n'est nullement entre la droite et la gauche, c'est un choix entre un homme de l'histoire et les politiciens. Je n'ai rien contre les politiciens, ils ne sont pas particuliers à la 4e République, ils n'ont pas changé depuis la Grèce, en gros, ils forment depuis des siècles un club de négociateurs. Aux objectifs historiques, donc à long terme, il substitue toujours l'objectif immédiat, c'est-à-dire aujourd'hui électoral. Le gouvernement que M. Mitterrand nous promet, c'est de l'histoire-fiction comme il y a la science-fiction. Qu'est-ce que c'est que cette politique de gauche qui n'ose pas prononcer les mots classe ouvrière ? Qu'est-ce que c'est que cette autorité ? Que s'arroge M. Mitterrand sur le Parti communiste. Mais s'il avait la moindre autorité, le Parti communiste ne le soutiendrait pas. Les chefs des autres partis, pas davantage. Dans ce cache-cache, où chacun attend l'autre au coin d'un bois, Monsieur Mitterrand a le choix entre Daladier et Kerensky. Il n'y a pas d'union des gauches, le peuple entier le sait, et les politiciens le proclameraient dès que le pouvoir serait atteint. L'objet réel de l'union, c'est l'élection. Je ne veux pas parler particulièrement d'intérêt, je veux parler d'une réalité historique plus profonde, que j'appellerais le compromis comme moyen naturel de gouvernement. La fin de la Troisième République en fut l'expression la plus dramatique, et la quatrième, l'expression la plus pitoyable. Lorsqu'avant la guerre de 40, il fallut concilier les défenseurs des divisions cuirassées et ceux des armes traditionnelles, on mit un demi-soldat dans un demi-char et le résultat ne se fit pas attendre. Cette conception du gouvernement n'a jamais résisté aux dangers de la patrie. Depuis la Convention jusqu'à Clémenceau, elle ne résiste pas davantage à la transformation sans précédent de la civilisation à laquelle sont confrontés les États modernes. Mais elle a conservé sa valeur électorale parce qu'un programme commun concerne ce qu'on fera et non pas ce qu'on fait. Le génie du politicien, c'est de contourner l'obstacle, d'où sa singulière incapacité, comme en 40, à faire face au drame. D'où la nécessité où sont les politiciens d'inventer un monde imaginaire dans lequel les obstacles réels, le sous-développement des autres nations, la misère, la transformation sans précédent du monde, sont remplacés par un seul adversaire, l'adversaire politique transformé en diable. La religion des États totalitaires, c'est le manichéisme épique. Celle des politiciens depuis bien longtemps, c'est le manichéisme électoral. C'est une manœuvre enfantine, mais facile à analyser, que de jouer sur le sens des mots pouvoir personnel quand on a fait soi-même 11 fois, dont une aux côtés d'un homme de la valeur de Mendès France, l'expérience de l'impuissance impersonnelle. C'est toujours pour cela qu'il faut faire du général de Gaulle le portrait que vous en avez tracé hier, monsieur Mitterrand, quand vous avez tenté de faire de lui un candidat allant séduire les députés. Vous oubliez bien vite, il demandait à l'Assemblée les moyens de maintenir la République. Elle lui demandait les moyens de n'être pas jeté à la Seine par les parachutistes. En ces jours où vous ne voyez dans le général de Gaulle qu'un solliciteur, j'ai vu heure par heure, soucieux de l'État, soucieux de la patrie, messieurs Pflimlin et Guy Mollet. Nous ne voyons pas les choses de la même façon, l'histoire non plus. Comme vous l'avez dit hier, avec ce merveilleux air de virginité politique et de modeste hauteur, les choses telles que les conçoit le général de Gaulle et que moi, je ne les conçois pas. Bergson professait, n'écoute pas ce que je dis, regarde ce que je fais. L'un de vos défenseurs éminents, monsieur le président Monnerville, publiait hier, le choix est entre un pouvoir fondé sur le mépris des hommes et la démocratie ouverte du député de la Nièvre. Ça ne vous fait pas rire? Et il faut rendre à la France sa vraie figure. Oui, en supprimant l'aide aux pays sous-développés, n'est-ce pas? Nous sommes quelques-uns à savoir la date après laquelle la France a repris son visage pour le monde. Dans ce domaine qui confond en permanence le souhaitable avec le possible, rien de plus significatif que l'idée que M. Mitterrand se fait de la création de l'Europe. On connaît la nôtre. J'ai dit depuis 15 ans à une partie de ceux qui sont ici. Depuis la grande voix de Michelet jusqu'à la grande voix de Jaurès, ce fut une sorte d'évidence tout au long du siècle dernier qu'on deviendrait d'autant plus homme qu'on serait moins lié à sa patrie. C'était alors la forme de l'espoir. Victor Hugo croyait que les États-Unis d'Europe se feraient d'eux-mêmes et qu'ils seraient le prélude aux États-Unis du monde. Le vrai prophète n'a été ni Michelet, ni Jaurès, ni Marx, si perspicace dans d'autres domaines, mais bien leur ennemi Nietzsche, qui écrivait que le XXe siècle serait celui des guerres nationales. À l'heure de sa mort, le géorgien Staline, élevé dans l'internationalisme, condamné pour internationalisme, regardant par la fenêtre du Kremlin tomber la neige qui ensevelit les chevaliers teutoniques et la grande armée, a eu le droit de dire « j'ai refait la Russie ». Pour le meilleur comme pour le pire, nous sommes liés à la patrie. Et nous savons que nous ne ferons pas l'Europe sans elle, mais que nous devons faire, que nous le voulions ou non, l'Europe sur elle. Rien n'a changé dans ce domaine. Le général de Gaulle a montré hier combien il était difficile de faire l'Europe, combien il était nécessaire de partir du concret en pleine conscience des obstacles qu'il impose. Croit-on les Anglais prêts à obéir à un président allemand de l'Europe par la seule magie d'un bulletin de vote, cette Europe unie qui commencerait sans doute par la guerre de sécession, c'est, une fois de plus, un désir. Et l'obstacle qu'elle rencontre n'est pas fait de 1000 ans d'histoire à leurs yeux, ni des passions les plus profondes, c'est le chauvinisme du général de Gaulle. Ce siècle sanglant aurait pu, cependant, montrer les limites de l'idéologie des âmes sensibles et de la déesse raison. Résumons, il s'agit de savoir où la France peut trouver la meilleure voie de son action, les meilleurs instruments de son destin. Il y a d'un côté un fait historique, accidentel soit, puisque le général de Gaulle aurait pu être tué avant 1958 ou au petit Clamart. Un homme chargé pour le monde entier de l'honneur que donne le souvenir de la plus grande fermeté dans le plus grand malheur, et uniquement soucieux du destin de la nation, a reçu des Français depuis 7 ans la charge de ce destin. Il peut l'assumer encore avec sa gloire et ses faiblesses. Tout ne va pas bien pour tous, loin de là. Et il ne s'agit pas de savoir si les choses continueront ainsi, il s'agit de savoir comment elles changeront pour devenir meilleures. Il s'agit de l'avenir. Et si je ne me souviens pas que le général de Gaulle, en 58, ait quémandé les voix des députés, je me souviens qu'il m'a dit assez tristement à l'hôtel La Pérouse, et peut-être aurai-je la chance de revoir une jeunesse française. Cet homme a fait ce que personne, depuis bien longtemps, n'avait fait dans une démocratie. Il a osé maintenir un plan d'austérité, au temps même de l'élection suprême, parce qu'il le jugeait nécessaire à la nation. En face, il y a des hommes de bonne volonté, laissons les autres, dont aucun ne peut disposer, ni chez nous, ni dans le monde, de la puissance d'arbitrage du général de Gaulle, parce que cette puissance ne se limite pas à celle d'une personne. Il ne s'agit pas d'un pouvoir personnel, il s'agit d'un pouvoir historique. Ce pouvoir est au service de la France et elle aurait tort de s'en priver. Il y a un dialogue, bon ou mauvais, entre les États-Unis, l'Union soviétique et le général de Gaulle. Pour Mao Tse-tung, comme hier pour Nehru, la France, c'est la Révolution et le général de Gaulle. Il y a un dialogue, bon ou mauvais, entre la droite, la gauche et le général de Gaulle, parce qu'elles savent qu'il n'appartient ni à l'une ni à l'autre. Son successeur fera de son mieux, mais il ne sera son successeur dans le destin de la France que s'il échappe à l'univers où l'on confond les compromis avec les décisions, les intentions avec l'action, la France que l'on souhaite ou que l'on rêve avec la France que l'on fait. Or, le gouvernement qu'envisage M. Mitterrand, c'est déjà le compromis. non la conjugaison de tendances parentes, le compromis fondamental. Ces 28 options ne forment pas une politique, mais un catalogue d'intentions. Il n'est pas le successeur du général de Gaulle, il est son prédécesseur. Il s'agit de choisir entre un homme de l'histoire qui a assumé la France et que la France ne retrouvera pas demain, et les politiciens que l'on retrouve toujours. J'ai terminé. Quelques-uns d'entre vous connaissent la lettre que Vernanos écrivit à ses amis en 1942. Ne vous tourmentez donc pas. La France a inventé Saint-Just, elle a inventé Jeanne d'Arc, elle a inventé Clémenceau. Elle n'a pas fini d'en inventer, c'est son affaire. Mais il ajoutait, la nôtre, ce serait d'empêcher qu'on les brûle. Elle implique à la fois la confiance dans le général de Gaulle et la confiance dans la France. Le moins qu'on puisse dire de nos prédécesseurs, c'est qu'ils n'ont été prodigues ni de l'une ni de l'autre. Ici se pose la question ridicule et fameuse des inconditionnels qui consiste à confondre le caractère inconditionnel d'une adhésion et celui d'une action. Je ne pense pas que lorsque César a passé le Rubicon, il l'a passé d'une façon extrêmement conditionnelle. Je ne pense pas que quand on interrogeait la pauvre Jeanne d'Arc traquée, elle était prête à répondre « J'ai suivi mes voies d'une façon conditionnelle. » En tout cas, elle ne les a pas suivies conditionnellement dans le bûcher. Je ne crois pas que si on avait dit à Saint-Just « Eh bien, la révolution, elle est tout de même conditionnelle. Lui qui attachait les maires qui vendaient les souliers en carton au pilier de la guillotine, il aurait répondu « La révolution est conditionnelle. Elle a été pour son compte assez inconditionnelle pour qu'il en meure. » Je ne crois même pas, sans parler de Bonaparte à la bonne époque, je ne crois même pas que Clémenceau eût accepté ce terme de conditionnel sans un énorme éclat de rire. L'homme qui est arrivé à la tribune de la Chambre en disant « En politique intérieure, je fais la guerre. En politique extérieure, je fais la guerre. Et n'importe où, je fais la guerre jusqu'à ce que nous l'ayons gagné. » Ce discours, digne des plus grands orateurs antiques, ne supposait pas qu'on faisait la guerre conditionnellement. Au surplus, nos adversaires, après avoir été tellement ennemis des engagements, sont en train de les prendre à leur tour. Et de ce point de vue, ce qu'il y a à dire, c'est qu'après tout, nous avons affaire à des gens qui sont toujours en retard d'un gaullisme. Sont devenus défenseurs de notre Constitution, défenseurs du gouvernement, de législature et de beaucoup d'autres choses. Alors, mesdames et messieurs, si c'est pour agir en gaulliste, nous préférons à l'intérieur le gaullisme du général de Gaulle à celui de M. Mitterrand et à l'extérieur le gaullisme du général de Gaulle à celui de M. Brejnev et du président Johnson. Vous savez maintenant ce que nous pensions, ce que nous penserons. On n'a pas plus prévu 9 millions de grévistes qu'on avait en 40, prévu 2 millions de prisonniers. Il s'agit là d'événements qui n'appartiennent pas à la politique, mais à l'histoire. Et la politique, c'est ce qui reste quand il n'y a pas d'histoire.
Les événements de mai ont commencé par ceux de la Sorbonne, sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Il appartient, lui, à l'histoire. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Ils se sont révoltés dans les facultés des États-Unis, qui ne sont pas d'antique Sorbonne. Ils se sont révoltés à l'Université de Mexico, où possèdent leur propre police et où la police fédérale n'a jamais pénétré. Les étudiants ont toujours été chahuteurs, mais il serait absurde de croire que leur chahut ressemble à celui du Moyen-Âge quand il ressemble à celui de la Californie. Certes, il faut réformer la Sorbonne et Nanterre, et peut-être même tout l'enseignement, lorsque l'audiovisuel frappe à la porte. Mais ne voyez-vous pas que la réforme des enseignements dans le monde entier tient moins à les réformer qu'à les remplacer par quelque chose qui est parfois le chaos et voudrait souvent être la fraternité. Ce que les étudiants, les vrais, attendent d'abord de nous, c'est l'espoir. Mais à côté de l'espoir, il y a le plus fascinant des sentiments négatifs. Le vieux nihilisme tout à coup reparu avec son drapeau noir et qui n'a plus d'espoir que dans la destruction. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connue. Les historiens des civilisations ont découvert que celles-ci se développent comme des plantes, que l'histoire de l'humanité est une suite de naissances, de jeunesse, de vieillesse et de mort, que notre civilisation s'élabore comme la civilisation antique ou la civilisation chinoise, et que toutes finissent avec les grandes cités cosmopolites, New York après Byzance et Byzance après Alexandrie, finissent avec un empire qui couvre le monde connu, en lutte avec ses barbares et son prolétariat. Pour les historiens, nous sommes à la fin de la civilisation occidentale. Mais ils n'ont pas encore eu le temps de voir, car toutes les histoires de la civilisation ont été conçues avant la bombe atomique. Qu'entre notre civilisation et celles qui l'ont précédée, il y a trois différences capitales. Notre civilisation est la première qui se veut héritière de toutes les autres. Elle est la première qui ne se fonde pas sur une religion. Enfin, elle a inventé les machines. Nous ne sommes pas les Romains plus les machines, nous sommes des Romains transformés par les machines que nous avons inventées et que les hommes n'avaient jamais inventées avant nous. Construire les pyramides ou les cathédrales, ce n'est ni construire les gratte-ciel ni gouverner l'atome. César se fut entretenu sans peine avec Napoléon, non avec le président Johnson. Notre civilisation qui n'a su construire ni un temple ni un tombeau et qui peut tout enseigner sauf à devenir un homme commence à connaître ses crises profondes comme les précédentes connurent les leurs. Encore devons-nous comprendre que si les grèves du 13 mai ressemblent de loin à celles du Front populaire, il ne s'agissait pas seulement de grèves ni au 13 mai ni au temps du Front populaire ni à la Révolution d'octobre. Jamais les grèves capitales ne sont seulement des grèves. Et le plus troublant caractère des nôtres, c'est précisément leur lien avec la révolte de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire avec une révolte mondiale et une crise mondiale. Je doute qu'elle se limite longtemps à la France. Les causes qu'attribuent à cette révolte les quelques professeurs restés lucides ne suffisent pas à l'expliquer. Oui, la Sorbonne est à transformer. Oui, les cours doivent être modifiés, les débouchés devraient être assurés. Mais nous avons vu le drame étudiant se développer dans des pays qui ont transformé l'enseignement et assuré les débouchés, autant que dans les pays sous-développés, aux États-Unis comme aux Indes. La jeunesse a-t-elle suffi à établir le pont entre nos étudiants révoltés et nos ouvriers grévistes? Il semble bien que les jeunes aient joué un grand rôle. En marge de l'action de la CGT, nous trouvons une exaltation insolite. Trotskistes et maoïstes unis par le mythe de la révolution permanente, castristes, nihilistes, et tout le peuple du drapeau noir. Tout cela n'a pas beaucoup d'importance et le Parti communiste se défend bien. Tout cela a devant lui la même importance ennemie et fraternelle que les étudiants ont en face de l'État. Ces grèves ont été singulières, d'abord évidemment par leur étendue, mais aussi par leur absence de haine. Quand on a vu déjà plusieurs révolutions, on ne peut s'y méprendre. Les grévistes étaient rarement armés. Les manifestations de masse ne se sont pas affrontées. Elles conduisaient à la guerre civile, elles ne la créaient pas. Elles aussi semblaient plus profondes que les revendications de salaire qu'elles soutenaient. Cette répétition générale d'un drame suspendu montrait, chez les grévistes comme chez ceux qui les regardaient passer, la conscience de la fin d'un monde. Même avec des salaires augmentés, notre société n'est pas encore adaptée à la civilisation des machines.